c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida,
bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Et nous avons une visite, Luz Mila, qui est avec nous aussi. Au sommaire de cette semaine, nous allons parler de la France, le Chili, d'une chercheuse chilienne. Nous allons parler du Brésil. Nous allons parler d'un petit pays, El Salvador. Et nous allons parler aussi de l'Argentine et de l'Uruguay. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de la France et le Chili.
Oui, c'est un extrait du communiqué du service de presse de l'Élysée. Entretien du président Emmanuel Macron avec le président du Chili, Gabriel Boric. Lundi 17 juin dernier, le président chilien a été reçu au palais de l'Élysée. À cette occasion, les deux présidents ont exprimé leur souhait de poursuivre la relation bilatérale entre les deux pays en mettant l'accent sur nos coopérations dans les domaines de la transition énergétique et de l'intelligence artificielle. Le Chili sera étroitement associé à la préparation du sommet sur l'action pour l'intelligence artificielle qui aura lieu au début de l'année 2025 en France. Le président français a salué la position du Chili de condamner sans ambiguïté l'agression que mène la Russie en Ukraine. Également, le président Macron a rappelé son engagement pour la mise en place d'une trêve olympique portée par l'Assemblée des Nations Unies durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Le président Macron et le président chilien ont affirmé leur détermination à faire face ensemble aux grands défis de notre temps. Ils ont notamment convenu de mener un travail conjoint pour la protection des océans en vue de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra à Nice à l'été 2025. Les travaux menés dans le cadre du pacte de Paris pour les peuples et la planète ont également été évoqués par les deux présidents, le Chili étant membre depuis sa création en juin 2023 à Paris.
Thank you.
Gracias a la vida. C'est une chanson chantée par Violeta Parra, une chanteuse compositrice chilienne. Et nous allons continuer.
On revient, oui,
parler,
sur, le,
oui,
sur une l'initiative
femme,
une sur femme l'IA.
Chilienne, oui, sur l'intelligence artificielle.
Une ministre, oui. Aysen Etcheverry, ministre de la Science et de la Technologie du gouvernement de gauche de Gabriel Boric, joue un rôle moteur dans la stratégie de l'Amérique latine sur l'intelligence artificielle. Pour cette ancienne avocate, la technologie doit s'inscrire dans une perspective sociale. Aysen Etcheverry, cette femme de 44 ans, s'est vue confier l'an dernier le ministère de la Science et de la Technologie du Chili. Il abrite des enjeux clés, à commencer par le lithium, qui sert à la construction de batteries et dont le Chili est le deuxième producteur mondial. L'autre dossier brûlant d'Aysen Etcheverry, c'est l'intelligence artificielle. En octobre 2023, la capitale Santiago a accueilli le premier sommet d'Amérique latine et des Caraïbes, dédié à cette question en partenariat avec l'UNESCO, dont le Chili apparaît comme un allié privilégié sur ce dossier. C'était la première fois que la vingtaine d'États de ce sous-continent se réunissaient pour tenter d'établir ensemble une stratégie commune sur l'IA. Pour la ministre Etcheverry, la technologie doit venir en appui aux politiques publiques permettant de prédire quelles sont les personnes les moins susceptibles de réclamer les prestations auxquelles elles ont droit. Le Chili entend aussi déployer l'IA au service de l'environnement. Appréciée pour ses qualités d'écoute, Aysen Etcheverry est considérée comme la personne adéquate pour organiser un dialogue fructueux sur l'IA en Amérique latine, selon le directeur de l'ONG Derechos Digitales, Juan Carlos Lara.
Vous êtes bien écouté l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un grand pays qui a quelques problèmes avec le président, n'est-ce pas Béatrix?
Oui, il s'agit d'un extrait d'un article paru dans le journal Le Monde sur le Brésil. L'autorité du président Lula da Silva, défiée par la droite, malgré de bons résultats économiques, le chef d'État peine à réunir une majorité au Congrès et enchaîne les défaites parlementaires. Le changement n'a échappé à personne à Brasilia. Lula da Silva a diminué ses voyages à l'étranger. Depuis le début de l'année, le président brésilien n'a effectué que 3 déplacements internationaux, pour l'essentiel en Amérique latine, contre 6 voyages sur 3 continents en 2023. Confronté à de fortes difficultés politiques à domicile, le leader de gauche s'est résigné à rester au Brésil pour tenter de raffermir son pouvoir ébranlé. Pourtant, tout semble sourire au chef d'État. Le taux de chômage tombé à 7,5% est au plus bas depuis 10 ans. Le Brésil a enregistré au premier semestre une croissance de 0,8% de son produit intérieur brut, supérieure aux prévisions des économistes. La déforestation en Amazonie est en chute et le pays a retrouvé sa place sur la scène internationale. Mais l'opinion publique ne semble pas tenir compte de ces bons résultats. Selon un sondage publié fin mai, une majorité de Brésiliens désapprouve l'action du gouvernement. 47% d'opinion défavorable. Lula a bâti une coalition formée par 14 partis, très hétérogènes et sans projet commun, analyse le politiste Carlos Pereira. La professeure et politiste à l'Université de Rio de Janeiro, Marira Goulart, indique que le Brésil demeure un pays très polarisé. Une partie de la société s'est radicalisée à l'extrême droite. La gauche n'est pas armée pour répondre aux questions religieuses et morales qui traversent maintenant une bonne partie de la société.
De la musique brésilienne. Alors, depuis ce grand pays, moi, passer à un autre pays tout petit et qui se trouve en Amérique centrale, El Salvador, n'est-ce pas, Béatrice?
Oui. La volte-face des États-Unis sur le régime Bukele. Alors que la constitution salvadorienne interdit dans plusieurs articles la réélection immédiate d'un président, Naïb Bukele, qui est à l'origine libanaise, non ? Je ne suis pas libanaise, hein, je crois. Hein.
Oui.
Élu une première fois en 2019 dans ce pays d'Amérique centrale, a été investi pour la seconde fois d'affilée le 1er juin dernier. Applaudi à tout rompre, le président réélu jubilé. 84% des électeurs avaient publicité la politique d'incarcération massive des membres des gangs qui ensanglantaient le pays depuis les années 1990, faisant chuter le taux d'homicides et ramenant la paix civile. Dans le public, la délégation des États-Unis ne comprenait pas moins de 5 hauts fonctionnaires. Anthony Blinken, le secrétaire états-unien, s'est fendu d'un poste sur X, félicitant le président Bukele sans un mot sur ses atteintes à l'état de droit ni sur les nombreuses violations des droits humains dans la lutte contre les gangs. De nombreux constitutionnalistes avaient considéré que le second mandat du président Bukele serait illégitime. Washington n'aurait pas dû reconnaître davantage la légitimité de la réélection de 2024 que celle du Vénézuélien Nicolas Maduro en 2018. Alors pourquoi ce changement ? À 5 mois de la présidence nord-américaine, le facteur électoral pèse dans l'équation. 2 500 000 Salvadoriens vivent aux États-Unis et beaucoup ont le droit de vote. Washington table également avec la diminution de la violence sur une baisse de l'immigration de Salvadoriens. Nayib Bukele contrôle désormais 95% de l'Assemblée nationale. Il a demandé à tous les Salvadoriens de défendre de manière inconditionnelle son projet.
Oui, ça me rappelle quelqu'un en France qui voudrait tous les pouvoirs aussi. Mais c'est vrai que les États-Unis toujours regardent ses propres intérêts par rapport à l'Amérique latine. C'est l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un grand pays maintenant qui a aussi des problèmes avec un président liberticide.
Oui.
Liberticide. Oui, allez-y.
Oui, il s'agit de l'aide alimentaire au cœur d'un scandale politique en Argentine. Le président d'extrême droite, Javier Milei, refuse de passer par les associations pour distribuer les denrées, quitte à les laisser pourrir dans les hangars. Ça, c'est quand même un peu fort. Des palettes entières de lentilles, de lait en poudre, de farine et autres produits de base emmagasinés dans des entrepôts. Depuis plusieurs jours, les images de ces stocks impressionnants inondaient les écrans de télévision argentins. La population découvrait stupéfaite que près de 6 000 tonnes d'aide alimentaire destinées à être distribuées aux plus démunis étaient entreposées dans des hangars depuis bientôt 6 mois, alors que la crise économique s'aggrave. Début du mois de juin, à la suite d'une saga judiciaire et médiatique, les premiers camions de l'armée ont finalement été missionnés pour répartir les aliments proches de leur date de péremption, après plusieurs semaines de refus de la part du gouvernement de Javier Milei. Pour ne rien arranger, un possible scandale de corruption au sein du ministère chargé de l'aide sociale a été mis au jour par les médias, faisant trembler le titulaire du plus gros portefeuille ministériel de l'administration Milei. Une étude de l'Université catholique argentine, publiée le 3 juin 2024, indique que 55% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, contre 44% au dernier trimestre 2023. Pour le politologue Francisco Longa, cette affaire démontre que c'est un gouvernement inexpérimenté qui ne peut bien gérer un État qu'il déprécie.
musique de l'Argentine. Et nous allons parler d'un autre pays aussi, de tango, parce que souvent les Argentins revendiquent le tango, mais c'est un pays qui est à côté de l'Argentine. Il s'agit de l'Uruguay. Et on va parler d'une nouvelle positive, n'est-ce pas?
Oui, oui. Donc c'est un article qui est paru dans la revue Challenge. Le fret ressuscite en Uruguay. Réalisé par le groupe français Nouvelle Génération d'Entreprises, la ligne Ferrocarril Central est le plus grand projet d'infrastructure du pays et une opportunité sans précédent pour son développement économique. Plus de 500 personnes sont rassemblées autour d'un traditionnel asado, grillade de viande, à Cardal, petit village de la campagne uruguayenne situé à 1 heure de route de Montevideo. Il célèbre un moment historique, la réhabilitation de la ligne Ferrocarril Central, soit 264 km de voie ferroviaire entre la capitale au sud et Paso de los Toros dans le nord du pays. Confié à NGE, donc les nouvelles générations d'entreprises du groupe BTP, dans le cadre d'un contrat de partenariat avec le gouvernement uruguayen, il s'agit du plus grand projet à réaliser dans ce pays. Pour le groupe français BTP, l'Amérique latine est devenue l'un des principaux axes de développement, explique Orso Vesperini, directeur de l'international NGE, a déjà construit des lignes de métro au Panama et en République dominicaine et le premier tramway d'Équateur. Il participe aussi au train Maya au Mexique, un réseau de chemin de fer touristique de 1500 km entre Cancun et Palenque. En Uruguay, il aurait fallu patienter 6 ans et recruter plus de 3500 personnes pour que le ferrocarril central devienne réalité. L'émotion suscitée par l'inauguration du train central n'est pas anodin. Cela faisait plus de 20 ans que l'Uruguay n'entendait plus le sifflement d'un train. L'ambassadeur français à Montevideo, Jean-Paul Settre, espère que les entreprises françaises continueront à investir en Uruguay, qu'il décrit comme un partenaire stable et fiable.
Oui, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, que les entreprises françaises sont très impliquées, pas seulement en Uruguay, mais aussi dans d'autres pays, comme tu viens de dire, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
Au Mexique
au Chili, je ne sais pas, avec le lithium.
Le lithium, peut-être. Justement, voilà. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce grand continent. Merci à Béatrix. Oui, c'est un grand continent.
Oui,
merci à Béatrix qui nous a livré des infos. Merci à Antoine, à la technique et avec la visite de Luz Mila. Muchas gracias. Hasta pronto.